où vivrons-nous demain ? Une émission de Jean-Pierre Estrampe. Architecture, urbanisme, cadre de vie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler à la fois des écoles d'architecture et de leur enseignement, mais d'une manière bien plus large, des modes et des idéologies dans la profession d'architecte, évidemment, dans la société tout entière. Donc il s'agit d'un article du Monde, paru ces jours-ci, qui s'intitule « Dans les écoles d'architecture, une génération entre guillemets, très militante, qui dit non au béton. » Alors, en suivant, on dit les ENSA, ENSA c'est École Nationale Supérieure d'Architecture, titre assez ronflant d'ailleurs. Alors, les ENSA ont fait évoluer leurs enseignements face au changement climatique. Très engagée, une nouvelle génération d'architectes questionne le monde professionnel sur ses pratiques. Bon, d'abord, les étudiants ne sont pas des architectes, et on aurait dû dire une nouvelle génération d'étudiants. Les étudiants ne sont pas des architectes, et c'est une grande différence, je pense, avec les autres enseignements, et c'est quelque chose qui est très handicapant, c'est qu'en fait, l'architecture est certainement la seule matière enseignée qui ne peut pas s'expérimenter et se prouver au cours de l'enseignement. En d'autres termes, les ingénieurs, les médecins ont d'ailleurs des formations qui coûtent plus cher que celles d'architectes, mais font que l'étudiant, dans la transmission qu'il a à travers son enseignement et ses enseignants, à une confrontation avec la réalité hospitalière, médicale, expérimentation aussi pour les ingénieurs. Si on est chimiste, on fait des expériences et ça ne reste pas uniquement au niveau du virtuel. Avec l'architecture, c'est là le paradoxe et la difficulté de cet enseignement, c'est qu'en fait, on ne travaille que sur du virtuel. Et sur du virtuel, sur lequel on n'a évidemment aucune preuve que le projet dessiné ou la maquette, qu'elle soit en carton ou qu'elle soit virtuelle, quel est son rapport à la réalité à la fois construite, à la fois la réalité de l'usage fonctionnel à travers les habitants, de la vraie insertion dans le site. Et on a parlé ici, bien souvent, comment on peut manipuler cela à travers notamment aujourd'hui les images numériques, mais c'est un vieux problème qui n'est pas forcément celui de notre époque, c'est ce rapport virtuel. C'est pour ça que les études d'architecture sont récentes dans l'histoire, ce qui n'est pas le cas de toutes les matières. On le sait bien, les écoles de médecine au Moyen-Âge, et il y a des traditions de transmission de savoir, justement, à travers l'expérience. Et jusque, on peut dire, une période très récente, c'est l'école des Beaux-Arts, qui d'ailleurs était une des premières écoles dans le monde à établir un modèle théorique et d'expérimentation à travers des projets et des jurys qui jugeaient les projets. Mais on peut dire que ce modèle, même s'il s'est répandu, n'a pas fait progresser dans cette coupure qu'il y a entre les écoles et la réalité. Bon, c'est pour ça que On ne peut pas appeler les étudiants des architectes, et les positions de la génération trimilitante, bon, quelque part, ça me fait sourire, parce que le militantisme, il est politique, et la profession, je crois, est une profession qui, dans son histoire millénaire, je crois, ne peut pas subir les fluctuations d'aujourd'hui. Alors, le Monde écrit donc que les ANSA ont fait évoluer leurs enseignements face au changement climatique. Et là, c'est déjà une première surprise, parce que l'architecture, elle n'est pas une discipline qui est exclusivement réservé à l'Occident, et à l'Occident tempéré qui subirait des variations climatiques. Puisqu'en fait, il y a dans des pays continentaux où les températures comme en Russie ou même l'Amérique du Nord et le Canada, on peut passer jusqu'à des températures de moins 40 jusqu'à plus 40, et il y a des pays tempérés où la température varie de quelques degrés dans le cours saisonnier. Il y a des régions chaudes, il y a des régions froides, il y a une diversité, et l'architecture s'adapte, mais aussi, on peut dire aussi que on peut avoir des continuités architecturales à travers la technique qui font que, indépendamment de des climat et des territoires, on peut avoir par exemple le style classique qui s'est étendu, on peut dire, sur toute la surface de la Terre, à travers même l'architecture coloniale, et que l'on va retrouver autant à Saint-Pétersbourg qu'à Mexico ou en Australie. Et il en est de même de l'architecture moderne qui est assez, on a appelé ça le style universel, je comprends assez mal, si vous voulez, cette étude qui me paraît être, on peut dire, régionaliste. Alors, la question, si tu veux, du non au béton, bon, c'est quelque chose qui me fait sourire, parce que d'abord, ce type d'expérimentation sur une architecture qui serait, comme l'on dit dans l'article, plus responsable et plus modeste, ça fait partie aussi, on peut dire, ça traverse l'histoire de l'architecture, d'opposer le grand style avec l'architecture régionale, locale, et c'est rien de nouveau. C'est vieux, on peut dire, c'est vieux comme le monde. Donc, on a l'impression qu'on découvre le chaude avec cela, mais il s'agit bien évidemment pas des mêmes choses. Il y a des bâtiments qui ont pour vocation d'être pérennes, et puis il y a des bâtiments qui peuvent être, pour certains cas, provisoires d'urgence. Enfin, il y a toutes les caractéristiques, et il n'est pas interdit, effectivement, de penser à des ressources locales sans avoir besoin d'exporter. Tout ça est tout à fait, on peut dire, responsable et pertinent. Mais le fond de l'histoire, c'est ce qui me paraît, alors là, être assez très idéologique, c'est le non au béton. Alors, le non au béton, et dans l'article, le béton est qualifié du matériau extrêmement polluant et coûteux en énergie. Et j'avais justement, en interrogeant une étudiante par rapport à ça, qui naïvement m'avait dit « Ouais, mais que le béton était chimique. » Alors, il faut rappeler d'abord que le béton n'est pas du tout un matériau moderne par rapport à tout ce que l'on a, les plastiques et tout ce qui entoure notre environnement. Et donc, la même étudiante qui referme son portable parce que le professeur, il s'agit de l'école de Montpellier qui est citée dans l'article dans lequel j'ai enseigné 20 ans, et qui se lève du cours parce que le professeur faisait un cours sur le béton, bon, ça me fait un peu rigoler, parce que le portable, il est dans des matériaux justement qui ont toutes les caractéristiques de ce que l'on dénonce, mais le béton, pas du tout. Le béton, c'est de la pierre liquéfiée, disons que la structure, c'est du gravier, du sable, de l'eau, et il y a un additif qui lui aussi est tiré de, c'est le calcaire qui est chauffé, qui est la chaux, en dosage de 10 à 20 suivant la, l'étanchéité que l'on veut donner ou la performance que l'on veut donner au béton. Après, il y a le fer qui va armer le béton armé, mais là on parle du béton. Alors, il faut rappeler aussi que le béton, ce n'est pas un matériau récent, même si le béton armé dans son usage, ça date de la fin du 19e siècle, mais le béton lui-même, par exemple la coupole du Panthéon à Rome, qui est un des bâtiments de l'Antiquité qui nous soit parvenu dans un tel état de conservation, avec les portes, les moulures, les détails, et cette extraordinaire coupole avec un oculus au centre. C'est un bâtiment tout à fait étonnant, et la coupole, elle a été faite en béton. Pas en béton armé, mais en béton par coffrage. Mais on a aussi cela dans... il y a des châteaux du Moyen-Âge dans lesquels il y a des voûtes qui ont été faites, on peut dire quasiment en béton, avec des coffrages glissants, ça veut dire qu'on faisait une armature en bois et qui était déplacée, et on laissait sécher au fur et à mesure les pierres qui étaient sèches avec le béton, et on a des voûtes, notamment le château de la Garde en Ariège, où on peut voir ce procédé, mais que l'on peut voir aussi dans différentes périodes des différentes civilisations employées. Donc, il faut rappeler aussi que dans une construction, le béton est essentiel. Aujourd'hui, on fait des fondations en béton, et que les maisons qui n'ont pas de fondation ont l'humidité qui remonte, et on fait ce qu'on appelle une rase étanche. Et dans des pays comme avec des terrains instables, mais il faut rappeler aussi que les villes qui sont au bord des fleuves, ce qui est assez fréquent, je pense, et comme Toulouse, on est obligé de faire des forages avec des pieux de béton pour stabiliser les bâtiments, que ce soit même d'ailleurs une simple maison, dans tout ce qui est au bord du fleuve. Donc, il y a une grande naïveté. Puis, de toute façon, les poutres, on sait que le bois, c'est assez limité. Ou alors, on fait effectivement du lamellé-collé, mais qui est un bois aussi qui est, on peut dire, sorti de l'usinage avec des procédés modernes. Mais c'est aussi limité. Avec aussi, les inconvénients qui sont liés à ce matériau. Donc, le problème du béton, moi, évidemment, je pense qu'un architecte n'est pas un marchand de matériaux, et un architecte doit être curieux de tous les matériaux, les employer suivant les circonstances et suivant la finalité du bâtiment, et aussi la durabilité qui lui est demandée, et aussi le coût et le budget dont il dispose. Alors, tout cela, évidemment, est un ensemble complexe, et on a aussi à connaître le béton, ne serait-ce que pour rénover les bâtiments qui sont en béton, et il y en a beaucoup, mais on doit aussi connaître la pierre, on doit connaître le bois, les charpentes, etc. Donc, l'architecte ne peut en aucune manière être un militant pour un matériau, parce que là, bon, je veux dire, il est marchand de matériaux, ou ingénieur spécialiste dans une seule technologie. Et c'est le contraire, justement, d'une profession qui se doit tout à fait de cette ouverture. Normalement, un architecte doit être capable, dans un pays tropical, de construire des maisons avec des bambous, parce que c'est les mêmes procédures, la même démarche qui doit être faite, quel que soit le matériau. Donc, cela relève d'une pure idéologie, et ceci est grave, parce que effectivement, ce n'est pas que l'article du Monde. L'article du Monde n'est que révélateur d'une réalité, mais de transformer les écoles d'architecture en idéologie par des enseignants qui n'ont jamais, de plus, pour la plupart, expérimenter ce qu'ils enseignent, on arrive à ce que je disais en tout début, on est dans le virtuel. On va marquer une pause musicale et on va reprendre cette causerie.
Things I need to say.
Voilà un cours de licence que Margot, étudiante en architecture, n'oubliera jamais. Je cite, « Le professeur a annoncé qu'on se pencherait essentiellement sur la construction en béton, un matériau qui consomme énormément de ressources. Comment est-il possible d'avoir en cours ce genre de cours aujourd'hui ?» s'indigne la jeune femme de 24 ans. Si en 2020, elle est la seule à fermer son ordinateur et à quitter la salle de l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier, ils sont nombreux autour d'elle à éprouver une forme de malaise. Alors voilà, je cite effectivement l'article du Monde, bon, qui me fait, je ne sais pas si on doit rire ou pleurer de ces propos qui me semblent d'une très grande naïveté. Et puis surtout, comme je vous disais, le matériau qui consomme énormément de ressources, le béton, en fait, est un matériau qui est basé sur justement de ce que l'on peut trouver près de chez soi. Bon, le gravier, il y en a, ça peut être aussi des matériaux de récupération, par exemple du béton qui va être recyclé. C'est vrai qu'il y a un problème avec le sable. Et l'extraction du sable va poser un problème, mais enfin, on est quand même très loin d'être en pénurie. Et l'eau, en plus de ça, on n'a pas besoin d'eau potable. On peut prendre de l'eau non potable pour faire du béton. Donc, c'est tout à fait différent par rapport au bois. Alors, effectivement, on parle beaucoup de terre, mais on parle beaucoup de terre depuis longtemps. Ça fait un demi-siècle que l'on parle dans les écoles d'architecture, il y a des expérimentations, il y a eu des projets financés par le gouvernement dans le début des années 80, ce qui remonte quand même à pas mal de temps, et notamment à Lyon, ça n'a jamais été très très probant. Et on voit que d'abord, le coût de l'opération souvent est plus élevé que celui d'une construction, on peut dire, traditionnelle, en parpaing de briques ou de béton. On est toujours à poser la question de l'étanchéité et de l'étanchéité à l'eau, notamment. Alors, effectivement, on peut faire des grands toits étanches pour protéger les murs, mais évidemment, en cas de pépin, ça arrive toujours. On ne peut jamais prévoir ou des intempéries ou tout simplement le matériau qui cède et d'avoir des gouttières. Donc, et auquel cas, le bâtiment peut sévèrement s'effondrer. Moi, j'ai vu dans des bâtiments anciens une gouttière qui fait que le bâtiment s'effondre dans les fermes qui sont construites en terre autour dans notre Lauragais, ou du moins en briques de terre, ou en partie en briques de terre. Et on connaît aussi le problème avec les colombages, là où on a une structure de bois portant et la terre en remplissage, mais même Toulouse était bâtie au Moyen-Âge comme cela, et on sait que le grand incendie a fait qu'on a interdit les colombages, et on en a quelques-uns qui ont été revêtus, on a quelques exemples, mais on a démoli les façades pour les remplacer par des murs de briques qui étaient devenus un règlement obligatoire. Alors on trouve souvent dans les rues du Vieux-Toulouse, dans des bâtiments, les façades en pierre qui datent donc de l'après le grand incendie médiéval, donc 17e, 18e siècle. Et les murs de refonte, c'est-à-dire ou les murs mitoyens entre les maisons, qui sont, eux, médiévaux et qui sont conservés. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas de choses qui changent vraiment. Et les techniques, on n'a pas trouvé ce produit, même s'il est annoncé toutes les décennies, d'avoir trouvé le produit miracle qui rendrait la terre étanche et les bâtiments en terre durables. Voilà, moi, personnellement, je ne suis pas contre les expérimentations, au contraire, ça me paraît tout à fait intéressant. Mais il faut rappeler quand même quelques évidences, que quand le bois aujourd'hui est présenté comme le matériau qui est le plus naturel par rapport à ce béton qui serait artificiel, et il faut rappeler que le bois dans la construction... Avant qu'il arrive dans la construction, alors je ne parle pas du contreplaqué qui est du bois qui subit des traitements chimiques et des colles, etc., pour arriver à sa performance, mais du bois naturel, ben, le bois naturel, les poutres ne poussent pas dans la forêt. Donc il faut planter, il faut couper, il faut ramasser, il faut entretenir les forêts, ce qui est tout à fait bien, mais ensuite il faut le transporter. Ensuite, une fois transporté, le bois doit être étuvé. On est obligé de le faire sécher. Le bois vert est totalement impossible à utiliser dans la construction, utiliser en quoi que ce soit d'ailleurs, même pour le brûler. Donc le bois doit être séché. Donc cela demande une énergie considérable d'abord de le débiter et puis de l'étuver. Et quand il s'agit de bois locaux, on est quand même assez limité sur le plan de nos forêts. Et la plupart du temps, il s'agit de forêts nordiques. Et donc, c'est déjà un coût de transport et un coût de... on peut dire, d'usinage, et qui est très important. Mais ce n'est pas fini, parce que quand on a ce bois qui a été amené sur le chantier et travaillé, scié et assemblé, il faut que ce bois, ce qui aura pu être fait avant, c'est-à-dire des traitements contre les cryptogrammes, les insectes, les moisissures, et puis également les parasites, donc. Et on sait qu'aujourd'hui, avec les voyages, il y a de plus en plus de parasites qui n'étaient pas locaux, mais on a le capricorne, des choses qui n'existaient pas avant, qui sont des agents dévastateurs qui peuvent fragiliser et détruire une charpente en très très peu de temps. Donc il y a des traitements qui existent, mais qui sont des traitements chimiques très lourd et qui devrait être reproduit. Et si on veut avoir le bois qui résiste à ces attaques de parasites. Mais ce n'est pas tout. Le bois a été traité, et là c'est absolument obligatoire, il doit être traité contre l'incendie et contre le feu. Et donc le bois en intérieur reçoit ces différents traitements, et notamment le traitement d'incendie qui doit être renouvelé tous les 10 ans sur les éléments porteurs. Donc on peut penser que les choses ne sont pas aussi simples avec le bois. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'éliminer le bois. Le bois est un matériau qui a des qualités visuelles, de tactiles et aussi de souplesse, d'utilisation pour les constructions. Simplement, quand il s'agit de structures, le problème est plus sérieux qu'avec des éléments de décoration ou des éléments de mobilier. Donc, ou des panneaux esthétiques extérieurs. Le bois en structure demande donc ce que j'étais en train de vous dire, mais il y a tout de même le problème qui est le problème de l'incendie. Alors, j'ai entendu dire très souvent dans la profession, et même d'ailleurs enseigné dans les écoles d'architecture, que le bois... quand il est très ancien, ne risque rien parce qu'il est quasiment ininflammable dans le temps. Je pense que vous avez vu comme moi l'incendie. Moi, j'ai toujours dit le contraire, mais prêcher dans le désert. Mais quand j'ai vu l'incendie de la charpente de Notre-Dame de Paris, et on ne peut pas dire que le bois était d'époque, donc il était médiéval, du bois médiéval, et c'était du chêne extrêmement dur et qui avait été protégé. Et on a vu que ça a flambé comme de la paille, et la manière dont le clocher a aussi, la flèche a flambé, c'était spectaculaire. Donc, on peut se poser des questions de sécurité pour des bâtiments en bois que l'on construit aujourd'hui avec des étages à Toulouse et ailleurs, avec ce type d'argument que le bois ne brûle pas, que les pompiers préfèrent le bois, etc. Bon, alors ça, c'est un peu, ça fait partie aussi d'une légende. Alors c'est vrai que les pompiers, quand il s'agit d'un incendie dans un bâtiment métallique, comme vous le savez, le fer fond à une température et à un moment donné, il y a un basculement où le fer se met à fondre et le bois a une combustion plus lente, mais enfin, quand je parle de la charpente de Paris, dans Notre-Dame de Paris, c'était quand même, ça n'a pas pris des jours, ça a été très rapide. Donc, les pompiers peuvent effectivement savoir le temps au vu des poutres et de leur combustion par rapport à une poutre de métallique qui, elle, va tout d'un coup fléchir parce que ça ne se voit pas. Voilà, simplement, il y a une différence, c'est que vous ne faites jamais de feu de bois avec des poutres métalliques et que avant que le fer fonde, le fer, il ne brûle pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des matériaux dessous qui l'alimentent, et ce n'est pas le cas de toutes les structures. Donc il s'agit de choses particulières, et on a l'expérience tout à fait douloureuse et regrettable d'un collège qui avait été dans les années 60, le lycée Pailleron ou le collège Pailleron qui avait brûlé et qui avait, oui, je crois qu'il y avait eu 30 morts. Et effectivement, on avait mis, en ne respectant pas les réglementations et ne respectant pas ce qu'avait imposé le constructeur et l'architecte, mais il y avait eu des initiatives où on avait mis des cloisons en bois. Et les cloisons en bois ont brûlé et l'incendie était très rapide et a fait fondre le fer et a tué les enfants et aussi, je crois, du personnel qui était là. Voilà, donc pour vous dire, les choses ne sont pas aussi simples. Et la conclusion que vous pourrez avoir par rapport à ces propos, c'est que il faut savoir raison garder un métier comme le métier d'architecte et le métier des constructeurs en général, que ce soit les entrepreneurs, les ingénieurs, on doit avoir un œil dans le rétroviseur sur le passé. Il n'est pas interdit d'innover et aussi d'avoir effectivement un regard vers le futur, mais le regard de l'histoire nous est, je pense, une véritable leçon. Et ce sera la conclusion d'aujourd'hui. C'était Où vivrons-nous demain ? Une émission de Jean-Pierre Estrampes. Je remercie Grégoire qui était à la technique et je vous dis à la semaine prochaine.